Fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Nous allons parler de comment lutter efficacement contre la chenille légionnaire d'automne de maïs en RDC. Nous aurons pour invité ingénieur agronome Damas Mamba, directeur de la division de la protection des végétaux au secrétariat général de l'agriculture. Vous êtes intéressé par ce sujet, vous avez des questions, le numéro d'appel c'est les 081 890 63 94. Vous pouvez aussi appeler au 099 716 63 94 ou encore réagir à l'adresse service@radiocapi.net, évidemment sur la page Facebook Okapi Service.
Tout
à fait, mère Elo, papa Keita.
Solo baninga bakomi kotuna minko na minko na lekiye.
Richard et Kanda la dru.
Soki ba somba liwana mbongo na kosomba ka yangaiye.
Alors monsieur Greg Huper.
Liwata lo mingi na miso ya nzambe mokonzi lutumba simaro. Kalikambo, tolalite butu ya lelonzo to ekotoko, sango ya koyebi sababoti, nandi mate, nakipate, polo kamba opolo, mbatinda kangana taranganga nalinga kate. Sinanga mpoya kozwa na lela nzambe miziki munoke bula o ya bode mavula o miziki mpeya bosele na yamba yamba o na kobina makwa ndungu e oh na koike yo ngambwa sigarete mama butupe moi na lala te mpula na moi na nzoto nanga.
Tonton Adam, oui le monde.
Na komananga ata na yoki kombo na hie na misabato na lekiye.
Mbamba ntoko,
soki batuninga eske mpe oyebi mwana oyo ayanga niye.
Basaka na bayete,
soki babi misi ba carte postale ba preuve na ba lettre. Nayangani
he, iyo si soko.
Nakamati decision amaya miso cigarette wa motema. Longue histoire he,
odiwa makamu
Banda yo afinganga Banda yo atongonga Basusu babetenga Basusu bakananga Nako ike yo Ngambwa sigarete mama Mbutupe moina lalate Ombula na moina nzoto nanga Baye bakende mbatina kangana talanganga nalinga kate kisina ngambo ya kozwana lela nzambe miziki munuke bula o ya bode mavula o miziki mpe ya bosele na yamba yamba o na kobina makwa ndungu owe owe naleli nzambe na bu Hazongi saine nuhio ejeni Na kolela yo mama na ya bintu Hepa yo koyo kango na nzela ya kongo Osana esilite mwana ya mama Owe, owe Mino kuna na angambo boyo kalikango
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix, comme je l'ai annoncé au sommaire de cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. On va parler de comment lutter efficacement contre la chenille légionnaire d'automne, d'automne du maïs en RDC. Nous avons le plaisir pour en parler d'accueillir dans ses studios ingénieur agronome Damas Mamamamba, directeur de la division chargée de la protection des végétaux au secrétariat général de l'agriculture en RDC. Ingénieur agronome Damas Mamamamba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Ça nous fait plaisir de vous avoir encore parmi nous pour, en tout cas, parler des végétaux.
Ah, c'est une joie partagée.
Voilà. Alors, ingénieur, c'est Mamamamba, vous le savez, évidemment, chers auditeurs, en RDC, la production du maïs est déjà faible à cause de contraintes traditionnelles liées à une agriculture de subsistance. Selon l'Institut National de Recherche Agricole Inerancic, cette céréale est pourtant l'un des principaux aliments de base de la population congolaise et elle est cultivée dans tous les pays, en particulier dans les anciennes provinces du Katanga, du Kasaï, du Bandundu et aussi dans la province du Congo central. Cependant, l'arrivée de la chenille légionnaire d'automne constitue une menace qui risque d'affecter davantage la production de maïs en RDC si des mesures sérieuses ne sont pas envisagées à temps, car des fermiers enregistrent des pertes d'environ 40% à la récolte. Comment lutter efficacement contre la chenille légionnaire d'automne du maïs en RDC? On en parle avec notre invité. Je rappelle le numéro des contacts. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à composer les 099-706-63-94 ou encore les 081-890-63-94. Vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook au Capi Service, aussi à l'adresse service@radiocapi.net. Alors, ingénieur agronome Damas Mamamamba, avant de parler un peu de cette menace qui constitue cette chenille légionnaire de tonne du maïs en RDC, c'est un peu déjà compliqué à cette appellation, et c'est un peu de nous aider à comprendre c'est quoi cette chenille légionnaire d'automne.
D'abord, il faut commencer par vous remercier pour l'invitation. La chenille légionnaire d'automne, c'est un ravageur venu des Amériques, apparu en Afrique au point de l'île Maurice en 2016, mais déjà au mois de janvier 2016, elle a fait l'apparition au Nigeria, mais c'est seulement quand elle est arrivée en île Maurice que l'alerte a été donnée. Et chez nous, elle a été constatée en novembre 2016. Les deux points d'entrée, c'était Libengue et Kambove. Et l'échantillonnage...
Et Ibengue, fait... c'est dans les grands équateurs, dans ces points de l'équateur.
Hein. Si, si.
Et Kambove, c'est dans...
Dans le
Haut Katanga. Dans le Haut Katanga, oui.
Alors, les deux points, c'est là où il y a eu l'alerte. Les chercheurs de l'INERA et de l'ITEA ont été dépêchés, y compris ceux du ministère de l'Agriculture, pour prendre des échantillons. Les échantillons prélevés ont été envoyés au laboratoire de ITEA au Bénin.
Oui.
Qui a constaté qu'effectivement nous avons la chenille légionnaire d'automne qui est d'origine Amérique. Et leur automne, puisqu'elle migre pendant l'automne du nord au sud, est également la même chose. Et comment elle est arrivée chez nous, c'est un grand point d'interrogation. Et après, en 2017, des échantillons ont été relevés dans 86 territoires de notre pays, avec 340 experts dépêchés partout. Les échantillons prélevés, renvoyés encore au laboratoire de ITEA au Bénin, vont confirmer la présence de la chenille de l'automne. C'est comme ça qu'en avril, le ministère de l'Agriculture va faire un signalement officiel, c'est-à-dire une déclaration officielle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà les déficits des céréales en RDC, maïs, sorgho, riz, millet, représentent environ 10 millions de tonnes. Les légumineuses, environ 3 500 tonnes. Donc, nous sommes autosuffisants que pour les tubercules.
Oui.
Et la chenille qui arrive enfonce encore ces déficits. Vous avez parlé une moyenne de trucs, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 64% d'incidence. Le résultat actuel. Et tous les 145 territoires sont infestés. Toutes les productions sont attaquées. Comparaison n'est pas raison. C'est, on dirait, Covid de la santé végétale. Or, les plantes nous donnent de l'air, nous donnent de l'oxygène, nous donnent à manger. Et parmi les principales cultures que nous avons, aux côtés du maïs, manioc, voilà encore la chenille légionnaire qui vient. C'est l'épidoptère. En quoi il est dangereux? Il est dangereux puisqu'il n'a jamais été chez nous. Puisqu'au moment où je vous parle, le continent qui est épargné, c'est seulement l'Europe. L'Asie, tout récemment en 2021, c'est l'Australie. Donc aujourd'hui, il est considéré aussi à même titre que pandémie de Covid. Puisqu'il affecte la sécurité alimentaire. Loin de la sécurité alimentaire, il affecte la souveraineté alimentaire. Il est noctuel, puisque c'est des nuits. Il peut faire 50 kilomètres en termes de dispersion. Donc quand il migre, c'est 100 kilomètres de vol. Avec un potentiel de ponte des yeux qui est très élevé.
Et l'immigration, ça fait par colonie?
Ça fait par essaim, oui, par colonie.
Oui.
Et il se déplace. Et comment il vit? Il se retrouve dans le verticille de feuilles. Il pond les œufs. Les œufs commencent à transformer et ça, on le constate 2 à 3 semaines après les semis. Sur certains, il peut attaquer à la levée. Mais le moment le plus important, c'est 45 jours dans la phase végétative. Et vous le retrouvez. Il commence à dévorer les tissus tendres. Quand il commence à dévorer les tissus tendres, il affecte la photosynthèse de la plante et toute la croissance. Et quand il commence à aller, sa vie totale, c'est 25 à 30 jours. À une température de 20 à 30 degrés.
Et pendant 25 à 30 jours, adossé chenille peut déjà faire autant de ravages.
Peut faire autant de ravages et pondre autant que vous avez.
Donc
son cycle est très court.
Oui.
Et quand il commence à percer, il fait des galeries. Son cycle total, il fait des galeries. Pourquoi on l'appelle chenille? Puisque c'est dans la phase larvaire qu'elle est dangereuse. Puisque, en fait, si, dans le terme courant, c'est un papillon. Mais dans sa phase dangereuse, c'est quand elle est une larve. Et quand elle est une larve, c'est au deuxième larve qui a au moins 6 stades. C'est au deuxième, troisième stade que il est, la chenille, elle est dangereuse. Il perfore, il fait des galeries, se retrouve dans le sol sous forme de pupe, dans toute sa croissance, et quand il veut éclore comme papillon, dès qu'il arrive à éclore comme papillon, il sort, quand il sort du sol, c'est 100 kilomètres. Alors prenons maintenant le kilomètre que nous avons. C'est comme ça que tous les continents africains, à l'exception de quelques points au nord, sont attaqués par la chenille légionnaire d'automne.
Alors en RDC, vous l'avez dit, elle constitue une vraie menace parce que déjà la production du maïs est faible, elle n'arrive pas à couvrir les besoins de tous les pays. Alors lorsqu'il y a encore cette menace avec cette chenille qui ravage les plantes, ça peut amener à une catastrophe alimentaire. Et c'est qu'il faut maintenant savoir, puisque l'alerte est déjà donnée, et qu'est-ce qui doit être... Quelles sont les mesures qui doivent être rapidement prises pour éviter le pire?
La RDC, à travers tout le consortium de ces espèces scientifiques, techniques, producteurs, a élaboré un plan qu'on appelle plan de riposte contre la chenille légionnaire.
Comme on le fait, comme il y a un plan de riposte contre la COVID-19, riposte contre la chenille légionnaire.
Contre la chenille légionnaire. Oui. Mais il faut déjà vous signifier que en 2017-2018, c'est 687 000 tonnes qui ont été dévastées. Et en termes monétaires, c'était environ 350 millions de dollars partis en fumée.
Donc déjà un impact financier.
Et aujourd'hui, là, nous étions déjà...
Un impact économique très fort, là.
Et là, nous étions déjà à 54% d'incidence. Là aussi, aujourd'hui, nous sommes à 64%. Donc, vous comprenez que si on fait pas un calcul simple, donc vous voyez comment c'est exponentiel.
Est-ce que vous avez déjà essayé d'abord par sensibiliser les personnes concernées, c'est-à-dire les agriculteurs par rapport à cette chenille légionnaire qui ravage les plantes de maïs? Comment ils peuvent déjà se rendre compte qu'il y a un problème?
La première des choses, ça prend de la biologie de l'insecte. Pour combattre, il faut connaître la biologie de l'insecte.
Exactement.
Et tout ce qui a été fait, pour qu'ils connaissent la chenille. Puisque pour mieux la connaître, pour que ceux qui suivent, si vous avez un champ de maïs, regardez sur la tête de la chenille que vous avez, la larve que vous avez. Et là, un signe de Y renversé. Il a le Y renversé. Et dans sa partie, dans son dernier segment, il y a une prédominance, une propension. Vous allez voir comme un point qui est. Et sur la deuxième segment, vous avez quatre points qui sont exposés. Et ce que nous avons eu à faire, c'est apprendre c'est quel insecte. Comment l'identifier? Puisqu'elle s'appelle, il est appelé scientifiquement Spodoptera frigiperda. Puisque nous avons eu d'autres chenilles. Sur le maïs, nous avons d'autres chenilles.
Oui.
Pour que les gens ne confondent pas les sésama, ou les Biseola fusca, ou les Pseudoptera exigua, il fallait savoir comment distinguer. Puisque vous et moi, nous bouffons d'autres chenilles. Pour qu'on ne complique pas que c'est quelle sorte de chenille. Ce qu'on a eu à faire, ces années auprès de producteurs, pour identifier, nous sommes allés avec deux photos pour que les gens connaissent. Ils connaissent, c'est ça la chenille. Qu'ils sachent l'identifier. Et quand vous l'envoyez dans votre champ, avec deux à trois larves, c'est déjà l'alerte, il faut partir.
Donc ça fait déjà partie de la stratégie de riposte. Et puis c'est quoi la suite dans la stratégie de riposte?
Dans la stratégie de riposte, il y a la surveillance. Il y a l'alerte. Vous avez vu, vous signalez. Quand vous avez vu tôt, et vous signalez auprès de l'agronome qui est à côté de vous, auprès des scientifiques qui est à côté de vous, déjà, c'est une bonne chose. C'est comme vous avez appris qu'il y a un rebelle quelque part, dès que vous signalez, nous faisons le contraire de forces armées, nous faisons ce que, puisque la santé des végétaux n'a pas de prix. Et quand vous alertez, vous devez commencer par ce qu'on appelle cette surveillance. Elle est déclinée en trois phases qui sont simples. la phase préventive. La phase préventive, et c'est ce que nous apprenons aux gens. Il faut commencer à s'aimer tôt. Puisque nous sommes dans un pays où il y a une forte pluviosité, il a été constaté que quand vous avez autant de pluie, on a la chance que les chenilles tombent et meurent. Alors vous avez à s'aimer dans le respect du calendrier agricole. Et quand vous respectez les calendriers agricoles, là nous parlons déjà des techniques culturales.
Oui.
Il faut des bonnes pratiques culturales. S'aimer tôt, bien labourer son champ, avoir de la bonne semence, bien fertiliser son sol, bien faire le bon entretien. Et là, vous avez fait une bonne part, puisque la prévention coûte moins cher que la lutte curative.
Ingénieur agronome Mama Mamba, on revient à vous. Il est temps pour nous d'accorder la parole aux auditeurs qui sont déjà en ligne. John Louisa qui nous appelle de Demba au Kassai Central, Saint-Forien qui est à Louisa et à Ali à Tito qui est également à Louisa. Si vous voulez également intervenir, appelez au 081 890 63 79. John Louisa, vous nous appelez de Demba. Bonjour John Louisa. John Louisa, vous êtes en ligne? Il semble que John Louisa n'est plus en ligne. On va aller à Louisa pour retrouver Séphorien. Séphorien, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
On vous écoute, Séphorien, dynamisez un peu votre voix, parler un peu fort là. On vous écoute, quelle est votre préoccupation par rapport à ces sujets où on est en train de parler de la chenille légionnaire qui est en train de ravager les cultures de maïs dans le pays.
Ok, nous avons des difficultés ici pour les chenilles là, vraiment nous dérange. Nous avons fait toutes les stratégies pour éviter le chenil là, mais nous ne captons pas quoi. Nous n'avons pas le moyen de faire effacer ce chenil là. Mais nous demandons pour que vous nous aidiez à nous donner des produits chimiques pour que peut nous aider pour éviter les chenilles là.
Alors, John Louisa, c'est important de suivre les explications de l'invité, parce qu'il faut d'abord savoir reconnaître la chenille, pour être sûr qu'il s'agit bien de la chenille légionnaire. L'invité a décrit cette chenille, il va y revenir pour vous permettre de vous assurer qu'il s'agit bien de la chenille légionnaire, comme l'invité l'a dit également à d'autres chenilles qui peuvent ravager les plantes. Merci John Louisa, Séphorien plutôt, d'avoir appelé de Louisa. On reste à Louisa pour accorder la parole à Ali Tito Chiyala. Ali Tito, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité.
Bonjour.
Et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Oui, merci de m'avoir associé à ce débat. Vraiment, c'est un bon sujet qui a trait à la survie de la population. Le problème de la chenille légionnaire, c'est un problème courant et éminent qui se vit actuellement presque dans beaucoup de milieux ruraux, en général et particulièrement ici chez nous à Louisa. Et c'est principalement la cause de la baisse de la production agricole et du maïs, accentuant ainsi l'insécurité alimentaire. Je pense que pour lutter contre cette chenille, il faut qu'on accorde une attention particulière aux cultures de base et plus précisément à la culture de maïs. Que l'État dote aux paysans et aux services attitrés les produits phytosanitaires pour détruire cette chenille. Et qu'on crée des pharmacies phytosanitaires et vétérinaires dans chaque territoire. Je prends un exemple, par exemple, la pseudo-peste aviaire pour les poules ici chez nous. Il y a quand même des gens qui peuvent y avoir des moyens, tout ça pour payer les produits pharmaceutiques, tout ça. Mais où est-ce qu'il faut s'en procurer? On n'en trouve pas. C'est la même chose avec les produits sanitaires ou phytosanitaires. Il faudrait qu'on en crée peut-être dans chaque territoire parce que c'est un problème qui nous préoccupe. J'avais aussi des questions à poser à l'invité par rapport à ce qu'il a décrit.
Allez-y.
Alors j'ai dit, quels sont les facteurs qui favorisent la prolifération de cette chenille? Les facteurs qui favorisent ça? Et la deuxième question, est-ce que cette chenille détruit-elle seulement le maïs ou même d'autres plantes? Merci beaucoup.
Merci, Sephorien, d'avoir appelé de Luisa avant d'accorder la parole à notre invité. Je m'en vais lire cette réaction qui nous est parvenue sur la page Facebook. C'est l'ingénieur Rodriguez qui nous écrit depuis Mbujima. Je suis très content du sujet du jour. Notez que j'ai déjà 5 ans dans la production de maïs dans le site de Kakelenga, 35 km de la ville de Mbujima. Notons qu'aujourd'hui, il y a plusieurs façons de lutter contre la chenille. Moi, j'utilise la lutte curative. Nous savons tous qu'avec la perturbation climatique, j'arrive à semer en respectant le calendrier agricole pour les deux saisons culturales AB pour empêcher la chenille d'attaquer les maïs. Ingénieur Mamamamba.
Je remercie les invités.
Les intervenants.
Oui. Ce qu'il faut reconnaître, c'est celle-ci. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que la chenille des légionnaires d'automne, ce qui est recommandé, c'est une lutte intégrée. C'est plusieurs méthodes qu'on associe.
Oui.
Les bonnes pratiques culturelles, le recours en dernier ressort aux pesticides et une très bonne surveillance et une bonne sensibilisation. Donc, vous ne devez pas rester fixé sur seulement une méthode. Vous demandez, l'agriculture, elle est d'abord familiale, elle est pauvre. Le recours des pesticides, il faut que vous soyez orienté par un très bon technicien. Ils ont signalé une chose, puisque dans la phase de lutte, nous devons renforcer les capacités des producteurs, y compris des techniciens, pour qu'ils sachent donner la bonne information aux producteurs. Ils réclament le produit phytosanitaire. Ce que nous devons dire à ces jours, nous avons de bonnes pistes, mais ce n'est pas encore carré pour la chenille légionnaire. Je ne vais pas m'avancer à commencer à citer le produit pour ne pas permettre, nous homologuons des produits. Aujourd'hui, il y a un produit, il ne faut pas le, nous avons Emamectin benzoate. Il donne de bons résultats. Mais il faudra qu'on vous renseigne comment il faut l'appliquer. C'est pourquoi il faut commencer déjà par les bonnes pratiques culturelles. Les conditions...
Et rappeler ces bonnes pratiques culturelles.
La première des choses, semer en respectant les calendriers agricoles.
Oui, comme l'a dit l'ingénieur Rodriguez. Oui.
Puisqu'il y a un qui a posé quelles sont les conditions qui favorisent.
Oui.
Aujourd'hui, la hausse de la température, la sécheresse, sont des facteurs qui favorisent la pullulation des insectes. Vous avez, dès qu'il y a rareté de pluie, ce qui a été constaté partout, à Luisa comme au Kassa et partout, les gens ont semé et très vite, il y a eu rareté de pluie et ils ont constaté la pullulation des chenilles légionnaires. Or, je voudrais donner qu'à 25 à 30 degrés, c'est ça, son écologie. Elle grandit très bien. Donc, il faut créer les conditions contraires. La lutte, les méthodes de lutte, c'est créer les conditions qui défavorisent. Si vous avez une bonne répartition de pluie, vous êtes à l'aise. Vous n'allez pas la supprimer, mais vous allez réduire l'incidence. Donc, quand vous semez tôt, quand vous faites un très bon entretien de votre champ, quand vous faites le bon labour, quand vous faites une bonne fumure, vous avez la chance de commencer à la contrôler. Et dès que vous avez vu la chenille, vous pouvez commencer à le prélever. Il y a aussi une lutte mécanique. C'est de commencer à le retirer de vos plants et le broyer. Il y a un auditeur qui a parlé, c'est combien d'espèces? La chenille légionnaire attaque plus de 80 espèces, y compris les aires de pâturage.
Il a demandé s'il attaque aussi d'autres plantes en dehors
de... C'est comme ça que je vous dis, plus de 80 espèces. Ah bon? Elle attaque les riz, les sorgho, elle attaque les aires de pâturage. Dernièrement, elle a été signalée sur l'oignon. Donc, elle s'attaque à tout. Quand elle ne trouve pas le maïs, vous pouvez le trouver sur les herbes qui sont aux alentours de votre champ. Donc, c'est une lutte intégrée qui est recommandée. Donc vous faites la bonne pratique agricole, vous pouvez faire la lutte mécanique, mais en dernier ressort, puisque si elle est déjà installée, vous n'avez qu'à recourir aux pesticides. Et parmi celles qui sont disponibles aujourd'hui, je veux parler de Bio-16, donc le recours à un Bacillus Sturgens 6, mais qui coûte cher. Les mamectines coûtent également cher. Donc d'où nous demander aux gens, tôt vous la détectez, tôt vous savez la contrôler.
Et surtout, vous avez insisté à respecter à tout ce qu'il y a comme pratique culturelle. Il faut vraiment commencer par respecter cela. Mmh. On va retrouver d'autres auditeurs qui sont en ligne par rapport à ces sujets sur comment lutter efficacement contre la chenille légionnaire d'automne du maïs en RDC. Glody, qui nous appelle de Bandundouville. Glody, vous êtes à Bandundouville. Bonjour. Glody, vous êtes en ligne? Apparemment, Glody n'est plus en ligne. On va rester à Bandundouville pour retrouver Malonga. Malonga, bonjour.
Oui, bonjour Marcel. Bonjour notre invité. À tous ceux
bonjour. On vous écoute, Malonga.
Oui. Bon, merci beaucoup. Je félicite d'abord les explications géniales de notre invité et les questions de mes prédécesseurs qui m'ont précédé. Mais moi, je vais demander à l'invité, est-ce que dans le monde entier, particulièrement dans notre Afrique, est-ce qu'on peut trouver un parc de chenilles au biais des papiers pour bien encadrer ces espèces de je ne sais pas si des insectes et si de quoi. En plus,
vous avez dit Malonga, s'il vous plaît, vous avez dit si on peut, j'ai pas bien saisi, vous avez dit si on peut trouver quoi?
Un parc national dans un pays ou bien dans un pays de ce monde. Ah. Bon, moi, j'essaie de dire que comme nous sommes le patrimoine mondial de tous, nous avons une végétation, nous avons une forêt, nous avons vraiment des reliefs qui acceptent toute espèce de nature. Est-ce que ça peut être cause de ces chenilles de se développer ici chez nous? Tout ce que j'entends au propos de notre invité, il dit que non, pour éviter ça, il faut chercher des insecticides et tout ça. Tout ce qui ici chez nous, nous faisons tremper les cendres dans l'eau, et puis maintenant c'est l'eau, nous les asperger aussi dans des matembelles, dans des ponous, dans des champs comme ça, pour s'épanouir ça, mais ça n'arrive pas à répondre. On va voir que tous les champs sont ravagés et on risque de perdre tout. Alors, c'est comme si c'est la nature qui le fait ça. Est-ce que le gouvernement peut s'approprier à un état comme ça pour ouvrir un parc de ces chenilles? Si ces chenilles ou de ces papiers se voient qu'ils sont menacés quelque part, et puis ils vont se déplacer là où ils sont habitués à rester. Et enfin, est-ce que ça peut être une infraction? Ces chenilles-là sont des espèces protégées ou bien on peut les traiter comme on veut.
Merci Malonga d'avoir appelé de Bandundouville. Gaston Gandou, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Gaston.
Bonjour.
On vous écoute Gaston.
Bon, je voulais un peu que l'invité puisse nous éclaircir si il y a un moyen efficace de les cultiver sans que ces chenilles-là arrivent chez vous, là où vous avez jugé bon faire votre agriculture. Est-ce qu'il y a-t-il, parce qu'on a pu constater que dans un même endroit, cette saison, vous avez la bonne récolte, et l'autre là, peut-être il y a ces insectes dangereux qui arrivent et qui ravagent votre récolte, ou peut-être que vous avez cultivé ici dans un endroit, vous n'avez pas trouvé ces insectes. Si vous osez faire dans un même endroit, vous avez des insectes. Mais si vous osez aller dans un autre endroit où peut-être ça a été cultivé depuis les années, ou peut-être pas, vierge, vous avez de bonnes productions. Est-ce que y a-t-il une moyen bien préventive à tout faire, qu'à tout moment qu'on cultive, on puisse être gagnant que de perdre à cause de ces insectes ici, qui peut-être nous cause beaucoup. Et puis, les insectes qui font allusion qui sont apparus en 2016, mais moi je sais que depuis qu'on a commencé à cultiver, il y a des saisons où les maïs ne croissent pas bien parce qu'il y a certains insectes qui peut-être pendant la croissance de la plante ou carrément dans la pluie, les fruits en soi, des maïs, là on retrouve des insectes qu'on mangeait même. Je ne sais pas si les insectes qu'il fait allusion là sont aussi mangeables. Là, ce sont des explications qu'il est censé nous donner. Mais j'aimerais un peu qu'on puisse aussi nous aider par rapport aux pesticides qu'il est en train de faire allusion. S'il y a des moyens traditionnels, qui pourraient, parce que vous savez, ce n'est pas à la portée de tous ces produits-là. Et surtout, par rapport à la production du maïs qui actuellement est utilisé pour plusieurs. Mais moi, je suis parmi les grands producteurs de maïs et à chaque fois que je cultive, j'ai eu toujours la chance de ne pas engager beaucoup de dépenses lors de la croissance de l'arbre et puis j'en ai tiré toujours profit. J'ai toujours sélectionné les terres que moi-même, en plantant, je vois que ce sont des terres bien traitées et apparemment fertiles. Et je suis aussi les arbres pendant la croissance, on essaie un peu de sacler. Surtout, on respecte aussi la saison de pluie, parce que ce sont des plantes qui doivent croître avec l'eau de la pluie. Et à un moment là, si la pluie sèche, la plante soit déjà à un niveau là, qui pour, et surtout, l'esprit qu'on a aussi lorsqu'on sème, qu'on doit toujours gagner. Et comme c'est Dieu, d'après ce qui se dit, c'est Dieu qui fait croître la plante, il a toujours, à agir par rapport à notre époque qui consiste à dire que, tout, on va produire, quoi. Donc, on va récolter, une bonne récolte. Et ça arrive souvent.
Voilà, merci.
Il y a des terres, il y a des coins là, c'est très compliqué, les gens souffrent, vous travaillez.
Merci Gaston d'avoir appelé de Kinshasa. On me fait signe que Glody Bouanganga est de nouveau en ligne. Glody Bouanganga, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Marcel, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Je pense que le cochenille, ce sont de ravageurs des cultures, comme nous les ingénieurs agronomes nous le disons. Ils sont classés parmi des ravageurs des cultures. Mais généralement, il y a certaines techniques que nous ne pouvons pas utiliser dans les champs parce que ça risque encore de créer des maladies au lieu de trouver la solution. Par exemple, si vous utilisez le pesticide, c'est pareil. Là, vous créez encore de autres conséquences parce que le pesticide là que vous utilisez, il faut savoir d'abord cet insecte-là est classé de quel ordre, de quelle famille, et quelles sont les techniques pour faire à ce que vous puissiez le chasser. Parce qu'il y a certaines techniques que nous ne pouvons pas faire ça. Parce que cet insecte-là, parfois, ils sont influencés du milieu écologique, des conditions écologiques, des conditions du climat. C'est ça peut-être qui fait. Mais la meilleure des choses pour lutter contre le ravageur des cultures-là, il faut juste faire le soin culturel de votre champ. Il faut nécessairement être guidé à côté d'un technicien agronome, ingénieur agronome, phytotechnicien, qui peut vous orienter pour ne pas tomber dans ces pièces-là. Parce que il y a certains de cultivateurs qui font le champ, il fait ça de sa façon, c'est qu'il fait, il trouve ça normal, mais en réalité, selon les normes agronomiques, c'est pas normal. Donc, je mérite que conseiller aux cultivateurs de maïs, ceux qui cultivent le maïs en République démocratique du Congo, au lieu de faire des cultures elles-mêmes, il faut qu'ils puissent associer des ingénieurs agronomes, parce que les ingénieurs agronomes, ils sont nombreux au Congo. Ce par-là, quand il est guidé à partir d'un technicien agronome, il peut voir, voilà, à cette période, on peut faire ce genre de culture, on peut faire ceci. Parce qu'il y a certaines conséquences que je fais actuellement, c'est qu'il y a certaines personnes, il y a certaines cultivateurs qui ne respectent pas le moi, donc il fait des choses en désordre, quoi. C'est pour cela, il y a plusieurs conséquences. Moi, je suis derrière l'invité, il dit, il y a certaines techniques que nous ne pouvons pas utiliser. Parce qu'on peut se dire qu'on peut utiliser les pesticides. Les pesticides ont beaucoup de conséquences. Si par exemple, dans les champs de maïs, nous utilisons les pesticides, au fur et à mesure, nous utilisons les pesticides vont se répandre sur tous les champs. Et quand les pesticides se répandent sur tous les champs, quand les gens vont consommer du maïs, il y aura encore des problèmes qui vont se créer. Alors, les pesticides sont nuisibles aux santé des gens. Alors, c'est très dangereux. Je ne conseillerais que les cultivateurs de maïs de ne plus faire leur culture. Et il faut associer les fils et les agronomes qui sont là à côté, qui peuvent les aider à faire qu'ils puissent réaliser leur travail. Parce qu'il y a certaines techniques que nous ne pouvons pas utiliser, c'est très dangereux. C'est trop dangereux à la santé. Alors, je pose la question à notre invité, monsieur le ingénieur agronome. Vous pouvez d'abord nous dire, parce qu'il y a beaucoup de chimie. qui attaquent des cultures. Alors, vous pouvez nous expliquer seulement en bref leurs symptômes, ils sont caractérisés par quoi et quel est leur caractère, quelle est leur aptitude. Vous pouvez nous expliquer afin qu'on puisse bien comprendre. Parce que jusque-là, depuis que vous avez commencé l'émission, vous parlez toujours de la chenille qui ravage des cultures, mais vous n'avez pas vraiment cartographié la quintessence de cet insecte-là. Si vous pouvez nous expliquer ça correctement, et je crois qu'il y a nos cultivateurs qui sont là pour prendre connaissance. Voilà, il peut trouver des solutions. Merci beaucoup.
Merci, Glody Bonganga. Il a commencé par ça. Bon, il va y revenir, hein, pour aider à tous ceux qui viennent de ce genre dans nous, qui nous ont pris en cours de l'émission, pour essayer d'avoir une idée sur pour savoir à quoi ressemble cette chenille légionnaire, et puis quels sont lorsque cette chenille ravage des plantes. Qu'est-ce sont à quoi va ressembler la plante, hein? Voilà, restez branchés, Glody Bonganga et ingénieur Mamamam, avant de répondre à toutes aux préoccupations, dernières préoccupations de Glody Bonganga, mais j'aimerais quand même que vous reveniez sur la préoccupation de Gaston, qui lui a cherché à savoir, avant de parler de la lutte, quels sont les moyens efficaces de prévention.
Je vous ai dit que la première des choses, c'est de connaître la chenille.
Oui.
La biologie de la chenille. C'est comme ça que nous avons commencé par vous dire qu'elle n'existait pas en Afrique. Elle vient des Amériques. Donc son écologie originelle n'était pas celle que nous avons. Et nous avons constaté que ça a un cycle court, 25 à 30 jours, et la phase, pour ceux qui le savent, la phase dangereuse de ce papillon-là, c'est la phase larvaire. Et c'est cette phase-là qui est appelée chenille légionnaire. C'est cette phase-là. Hein? C'est cette chenille-là. Les dégâts comme papillon, le papillon c'est la ponte. Mais c'est à la phase de la chenille comme larve qu'elle est dangereuse. Et c'est à ce moment-là qu'il faut la contrôler. Et généralement, c'est à la deuxième, à troisième semaine que cette phase, et cette phase a plusieurs stades. C'est pas important ici, à ce niveau-ci. Mais il y a des choses qui ont été dites, si je ne donne pas, puisque vous allez donner des pistes de solutions, j'ai dit qu'il y a une lutte intégrée, c'est plusieurs méthodes associées. Il n'y a pas une seule qui donne solution tout de suite.
Ingénieur, oui. Et lorsque la chenille commence à attaquer la plante, à quoi va ressembler la plante? Parce que c'est aussi une préoccupation de...
À quoi va ressembler la plante? Vous avez au verticille de feuilles, vous avez les déjections de la chenille. Vous savez le constater, hein, donc je peux utiliser le terme simple, les excréments, vous les retrouvez au verticille de feuilles. Donc là où la feuille colle la tige, vous avez... Si vous le constatez, ça c'est réellement essentiel. Vous pouvez voir si la feuille, ça permet à ceux qui ont une connaissance assez poussée, vous allez voir les œufs. Et les œufs sont enfermés, donc vous ne pouvez même pas casser, c'est dans un cocon en fibre. C'est rare par exemple aux autres chenilles que nous avons sur le maïs. Vous avez également, vous pouvez trouver les feuilles mâchées. Hein? Mais il y a beaucoup d'organismes nuisibles qui mâchent les feuilles. Mais vous pouvez trouver la particularité. Mais à un stade avancé, vous pouvez voir que les tiges tombent aussi.
Et vous l'avez dit, en ce moment-là également, Glody Bonganga l'a souligné, il faut se faire assister à d'un technicien agricole d'un ingénieur ou technicien agricole pour vous aider à...
Oui, mais c'est pourquoi il y a le renforcement des capacités dans la chaîne de production. Oui. Nous avons le producteur qu'il faut former. Nous avons ceux qui ont déjà la formation. Il faut qu'ils connaissent aussi, puisqu'ils n'ont pas la connaissance de tous les ravageurs de plantes. X ravageurs de plantes se comporteraient autrement par rapport à un autre. Mais ce qui est important à signaler, c'est le savoir paysan, puisqu'il y a quelqu'un qui a invoqué cela. Puisqu'il y a ce que nous sommes en train, avec tous les chercheurs de l'INERA, de ITEA, c'est de voir si ces méthodes alternatives qu'on a peuvent aller avancer. Vous savez, il y a des gens qui prennent par exemple la cendre, plus de l'huile, et qui mettent au vertici de feuilles. Ça fait tenir, c'est un petit champ.
Oui.
Mais ça ne tient pas partout. Il y a de coins où les gens ont, par exemple, utilisé, qui ont carrément utilisé, qui ont utilisé d'autres produits. Seulement la cendre,
oui.
qu'ils ont épandu sur les vertices de feuilles. Mais tout ça est en train d'être testé pour savoir quelle est la meilleure. C'est pourquoi nous avons le volet de méthode de savoir paysan. Nous avons besoin que les gens nous communiquent ce qu'ils font. Et nous sommes en train de les chercher, de les tester au niveau de nos centres de recherche pour savoir quelle est la meilleure.
Alors quand vous dites qu'il faut chercher à être assisté d'un technicien ou d'un ingénieur agronome, est-ce que ces techniciens, ces ingénieurs agronomes sont facilement accessibles?
Oui, ils sont accessibles. C'est celui qui vous parle. Non seulement il est ingénieur agronome, mais il est autorité morale de la protection.
Donc,
il y a des docteurs de plantes.
On parle aussi d'autorité morale de la protection.
Oui, donc, c'est-à-dire que ces techniciens-là, qui n'ont été que formés pour ça, dans notre jargon, on parlerait des phytopathologistes,
oui.
On parlerait d'entomologistes, on parlerait d'autres, qui sont tous disponibles pour donner. C'est pourquoi un volet très important, c'est le renforcement des capacités et de producteurs et de techniciens. Pour qu'ils sachent, ça c'est un fléau nouveau, comment il faut se comporter par rapport à ces fléaux nouveaux. Il ne faut pas confondre. Hein? S'il y a telle méthode pour tel organisme nuisible, ne soyez pas sûr que c'est celle-là qui va valoir pour la chenille légionnaire. Loin de là.
Ingénieur, excusez-moi de vous interrompre, on va revenir à vous parce que le temps est parti, cette deuxième partie tire à sa fin. Le temps, on va prendre rapidement Benoît qui nous appelle de Kinshasa. Benoît, vous nous appelez de Kinshasa, bonjour.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
On vous écoute Benoît, il y a beaucoup de bruit là où vous êtes. Si vous pouvez essayer de vous éloigner un peu, comme ça on pourra bien vous suivre. J'espère que c'est fait. Allez-y, on vous écoute Benoît.
Oui, je suis devant le grand marché. J'aimerais répondre d'abord à l'intervention de l'invité. Parce que nous savons que la production d'ailleurs de maïs pose d'abord problème. Les gens qui en font ce souvent, les gens que nous appelons les ingénieurs d'ailleurs, d'abord cette production pose problème parce que le temps de la production, les endroits que ces maïs sont mis dans des dépôts, et il y a également la sécheresse. La personne peut semer les maïs, qu'à la longue, et lui estimerait que la saison sèche peut ou n'est pas le surprendre. Dans sa grande surprise, il est devant cette saison. Ça peut également lui embrouiller à la longue de bien protéger ces derniers. La question à notre invité, parce qu'il avait répondu à l'intervenant de Bandundu, et moi je devrais juste lui demander à quelle place pour d'abord s'épargner que les tenues
me s'embouillent et se dire que la suite doit s'éclairer. Merci.
Voilà, merci à Benoît, c'était pas facile de vous suivre, mais on a essayé de retenir l'essentiel. Vous avez évoqué le problème de perturbation climatique avec de pluies qui peuvent s'arrêter un moment et on a du mal à protéger ces plantes vis-à-vis de cette chenille parce que lorsqu'il n'y a pas de pluie, c'est parmi les causes qui ont été évoquées par notre invité. Alors, qu'est-ce que vous dites à Benoît pour ce qui est des perturbations climatiques? Il a dit que l'agriculteur peut être surpris par le fait qu'il n'y a pas de pluie et vous avez dit lorsqu'il n'y a pas de pluie, c'est un moment favorable aussi pour cet insecte ravageur. Il y a également notre auditeur qui avait cherché à savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des endroits où on fait des cultures, ça se passe bien. Et à un moment, lorsqu'on revient faire des mêmes cultures aux mêmes endroits, il y a des problèmes.
Oui, C'est pourquoi je dis l'agriculture n'est pas un art. Hein? C'est également une science. Quand vous voulez semer l'agriculture de maïs, il faut d'abord avoir la bonne semence. Et la bonne semence, vous pouvez approcher les structures des services nationaux des semences qui sont éparpillées dans toute la République pour vous orienter dans les catalogues pour savoir quelle est la variété qui vaut pour là où vous êtes. Puisque quand vous avez cette variété, vous avez la description. Elle va vous dire, voici les conditions dans lesquelles il faut la semer. Et ce qui est constaté avec ce fléau, que les gens n'imaginent pas que la chenille existait chez nous. Elle n'a jamais existé. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est un fléau très dangereux. Et vous devez faire le bon choix de votre site. Faire le bon choix de votre site, c'est de savoir, est-ce que ce site peut avoir, comme nous en avons plus de 80 millions de terres arables, donc c'est-à-dire que vous pouvez l'essayer partout. Et si vous ne savez pas l'essayer là, il y a toujours un amendement en fertilité qu'il faut apporter pour corriger si le sol n'est pas à même d'avoir le truc. Puisqu'il ne faut plus, même dans les déserts on plante aujourd'hui, il faut des amendements appropriés pour s'aimer. Ça, c'est pourquoi il faut être encadré. Il faut être encadré pour avoir la bonne information. Une fois que vous avez une infestation dans votre champ, que ce soit pour les chenilles ou pour autre chose, ça c'est la loi du pays. Si vous signalez pas et que l'agronome du territoire ou des secteurs passe ou de regroupement, il constate, il peut vous amener devant les cours et tribunaux. Puisque vous êtes en train de cacher quelque chose qui va porter atteinte à la sécurité alimentaire. Dès que vous l'avez fait, maintenant vient l'étape comment il faut contrôler. Comment il faut contrôler? Il faut respecter le calendrier agricole. S'aimer au bon moment. Mais quand il y a des perturbations climatiques, il n'y a personne, il n'y a que Dieu qui sait qu'il y a perturbation. Vous êtes obligé, puisque dès qu'il y a une petite sécheresse, par exemple à la floraison, qu'est-ce que vous allez faire? Nos producteurs n'ont pas de moyens. Ceux qui ont des moyens, ils peuvent procéder à l'irrigation. Mais ceux qui n'ont pas de moyens, ils vont faire quoi? Ils vont regarder. C'est là où l'État doit les assister. L'État doit les assister. Et quand il y a des inondations, les gens qui perdent tout, les gens, l'État doit les subventionner. Donc, ce que nous insistons pour cette émission, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, aux côtés d'autres maladies qui existaient sur le manioc, sur le bananier et sur la tomate, nous avons un fléau important qui est la chenille. Il faut s'élever, que vous soyez décideur politique, que vous soyez technicien, journaliste, tout le monde doit en parler. Il faut mobiliser les ressources. Hier, vous avez suivi, nous avons tenu la conférence nationale sur la chenille légionnaire. Une première dans le monde. Qu'on parle de quelque chose, puisque la réduction, nous avons déjà dans l'ensemble au moins 0,1% de rendement.
Donc on retient, ingénieur Mamamamba, que la menace est réelle, mais il y a déjà un plan de riposte contre cette chenille légionnaire d'automne du maïs qui constitue, comme je le dis, une véritable menace pour la culture de maïs en RDC. On va s'arrêter par l'ingénieur Mamamamba. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation justement pour parler de cette lutte contre la chenille légionnaire d'automne du maïs en RDC. Merci, on espère vous retrouver prochainement.
Moi également, je vous dis merci et j'ai dit merci à tous les intervenants qui ont pu apporter quelque chose. Et je demande aux décideurs de se lever, sinon la souveraineté alimentaire sera affectée. Merci.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce numéro du magazine Okapi Service de ce jour. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Mimi Kindou qui est à la mise en onde, à Tati Mapoukou qui l'a réalisé et coordonné au micro. C'était Marcel Ndombobala sous la supervision de Jean-Marc Matin qui a le plaisir de vous retrouver le lundi prochain dans un autre numéro de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. D'ici là, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à tous.